passage obligé chez le juge d'instruction. Arrivé place Fontette, la voiture s'arrête au pied des marches de l'imposant édifice. Nous franchissons la façade du palais de justice. J'ai le sentiment qu'en franchissant ce seuil, j'entre dans un processus inéluctable dont l'issue est imprévisible et sur lequel je ne peux influer, sinon en me taisant. Ne pas parler. Surtout ne pas parler. Je suis introduite chez le juge. Celui-ci, penché sur son bureau, consulte un dossier, peut-être le mien. Il lève les yeux sur moi et paraît surpris, par mon apparente jeunesse sans doute. Nouvel interrogatoire, assurément plus correct que les précédents, moins vociférant qu'avec le capitaine. Je m'en tiens à ma première version. J'ai trouvé les tracts, je n'appartiens à aucun groupe. L'interrogatoire ne se prolonge pas outre mesure. Le regard que cet homme porte sur moi est empreint de lassitude. Il m'avertit que d'autres personnes auront les moyens de me faire parler. J'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Ou bien a-t-il voulu me prévenir des difficultés qui m'attendent? Peut-être. Mais je m'en tiens farouchement à mon système de défense. Je ne sais rien. J'ai trouvé les tracts. Deux coups légers à la porte du bureau. Un fonctionnaire apporte un paquet enveloppé de papier cadeau. Apparemment, il s'agit d'une boîte de chocolat. Ce n'est pas un cadeau banal. Le chocolat est une denrée rare. Mais c'est Noël. Alors, me dit-il, c'est tout ce que vous avez à me dire? C'est tout. Un silence. Il y mit un terme en me signifiant l'obligation dans laquelle il se trouve de m'arrêter et de me faire incarcérer à la maison d'arrêt. Arrivé à la maison d'arrêt, je quitte le tribunal à pied car la voiture ne nous a pas attendus, toujours accompagnée de deux gendarmes. Quelle heure est-il? Je n'ai plus la notion du temps. Nous remontons la rue Guillaume le Conquérant. On arrive à l'embranchement de la rue Caponnière et de la rue de Bayeux. Il fait nuit noire. Pensant que cette obscurité puisse m'inspirer des velléités de fuite, l'un des gendarmes me dit « Si tu essaies de te sauver, je te tire dessus. » J'avoue ne pas l'avoir envisagé. Je suis physiquement et moralement à bout de force. Je marche machinalement entre mes deux gardiens sans réfléchir à quoi que ce soit. Je suis, pour le moment, incapable d'ordonner le cours de mes pensées. J'ai peur, c'est tout. Nous sommes arrivés devant la maison d'arrêt. Au coup de sonnette, d'un gendarme s'ouvre un judas grillagé situé à hauteur d'homme dans la lourde porte. Un gardien s'assure, à travers le judas, de la qualité de ses visiteurs. La porte s'ouvre. À l'instant où elle se referme derrière nous, j'ai le sentiment de quitter un monde, dangereux certes, pour rentrer dans un autre, inconnu, menaçant. Que sera-t-il? Vers quel destin me mène-t-il? Je passe au greffe pour les formalités. Fiche signalétique complète, on me prend les empreintes de tous les doigts, photographies, etc. Je dois être une grande criminelle. D'ailleurs, on m'inscrit comme terroriste communiste. Cet attribut de terroriste me confirme dans la conviction que mon avenir, à plus ou moins longue échéance, pourrait aboutir à un point final, définitif. Entrée au quartier des femmes. Les formalités de greffe terminées, une gardienne me prend en charge pour me conduire au quartier français des femmes. Auparavant, elle me fait entrer dans une pièce contiguë. Là, je subis une fouille intégrale. Elle me prend ma valise, me laisse seulement quelques affaires et m'enjoint de la suivre. Une odeur m'envahit, indéfinissable. C'est difficile d'expliquer l'odeur d'une prison. Nous allons au long d'un couloir flanqué de portes solidement verrouillées, percées du traditionnel judas de surveillance. J'emboîte docilement le pas à ma gardienne à l'imposante silhouette, impersonnelle dans son uniforme noir, serré à la taille par une ceinture doupant un trousseau de clés qui accompagne chacun de ses pas d'un bruit métallique bien caractéristique. J'ai constaté plus tard que ce bruit permettait de suivre le périple des surveillantes au long des couloirs de la prison. Elle ouvre une cellule. Il y a là deux jeunes femmes. Encore une porte qui se referme sur ma liberté, me retranchant un peu plus d'un monde qui était le mien il y a seulement quelques jours. Monde fait de difficultés, de risques consentis, certes, mais monde où l'on agissait, où l'on existait. La cellule est déjà meublée d'un lit, d'une chaise et d'une table accrochées au mur. Une paillasse à même le sol complète le mobilier. On m'apporte peu après une paillasse accompagnée d'une couverture et d'un drap. Le tout posé à même le sol. Le luxe. Je dois laisser mes chaussures à la porte. J'en ignore la raison. Quand la porte fut refermée, je pose drap et couverture sur la paillasse et je m'assieds sur le tout. Je me rends compte à quel point je suis lasse. L'énergie qui m'a soutenue durant ces 3 jours semble m'avoir soudainement abandonnée. Je ne sais plus si j'ai mangé depuis mon arrestation. De toute façon, je n'avais pas faim. Je regarde mes compagnes de cellule. Nous avons peu parlé jusqu'à présent. L'indispensable bonsoir, c'est une façon de prendre contact. Nous échangeons quelques mots en disposant les paillasses pour vivre à trois sans problème. Je ne suis pas très bavarde. Je sais que le monde des prisons est celui de la méfiance et aussi, parfois, celui de la délation. Des camarades ont été victimes d'une confidence faite à un compagnon de captivité. Finalement, on échange quelques mots, on fait connaissance. Elles ont été arrêtées pour avortement. J'apprendrai plus tard que le plus grand nombre de femmes internées dans les prisons françaises étaient accusées d'avortement ou de complicité d'avortement. Quelques cas de marché noir aussi. Que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu ici? Je réponds de façon évasive et reste discrète sur les raisons de mon arrestation, prétextant ne pas savoir exactement ce qui m'est reproché. Je suis fatiguée. Je m'allonge tout habillée sur ma paillasse. Moralement, je n'en peux plus. Mes nerfs craquent. Je pleure. Je pense à maman. Je crains qu'elle soit aussi arrêtée. Première nuit, premier réveil en prison. Il devait être tard dans la nuit quand la faiblesse et la fatigue nerveuse aidant, je pus enfin sombrer dans le sommeil. À mon réveil, coup d'œil vers la fenêtre. Le jour n'est pas encore levé. J'ai plus ou moins retrouvé le moral. Un calme fatalisme vaut une certaine lucidité. Une parcelle de courage pour affronter le jour qui vient et dont je ne sais devoir...